Nous te prions que ton Saint-Esprit qui a inspiré ces écritures puisse aussi être avec Adnan maintenant dans ce qu'il va partager, qu'il puisse retranscrire et retransmettre ta parole avec vérité et justesse, et que tu nous donnes, Seigneur, nous tous, de pouvoir être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Tu disposes nos cœurs par ton esprit à entendre ta parole et à pouvoir aussi la mettre en pratique par la suite. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur te bénisse.
Merci Timothée. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Voilà, donc bonjour à tous. Non, c'est pas encore. Voilà, donc là en attendant, bonjour à tous. Soyez bénis. Voilà, élève-toi, ô notre Dieu. Eh oui, qu'il est bon et qu'il est digne d'être élevé, notre Seigneur. Amen. Voilà, et donc. Je voulais partager avec vous ce matin, alors, juste un instant, hop, je vais démarrer le chronomètre, parce que j'aime bien savoir combien de temps je vais mettre. Voilà. Donc, bonjour encore une fois à tous. Voilà, donc, ce matin, j'ai eu à cœur, durant ces quelques jours pour préparer ce message, le Seigneur m'a mis à cœur, voilà, de partager... cette prédication, donc vous savez qu'en tant que chrétien, nous vivons un monde qui est assez agité en ce moment, et c'est un monde assez, on peut dire, paradoxal. Paradoxal dans le sens où on entend souvent parler d'espérance de guérison, d'espérance de vie, d'ailleurs l'espérance de vie qui augmente en général dans les pays les plus développés. On parle d'espérance un peu... d'espérance dans un au-delà, peut-être, pour certaines personnes, d'espérance dans le travail. On entend beaucoup parler d'espérance. Mais autour de nous, quand on voit les personnes que nous côtoyons, nous ne voyons pas beaucoup cette espérance. Nous voyons plutôt de la désespérance. Nous voyons plutôt des personnes de l'angoisse, des personnes accablées, des personnes qui vivent sans espérance. Et il est vrai que quand on voit un peu la situation dans le monde, bon, il n'y a qu'à voir quand on regarde le journal télévisé ou autour de nous, c'est vrai qu'il y a de quoi, justement, on peut se demander où est cette espérance. Alors l'espérance, la définition, hein, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. On a comme synonyme confiance, croyance, espoir, optimisme. Donc c'est quelque chose de vraiment... très agréable à avoir cette espérance. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons dans notre cœur la chance, mais ce n'est pas une chance, c'est une bénédiction d'avoir un trésor, d'avoir vraiment une lumière. C'est l'espérance, la véritable espérance. La véritable espérance, alors c'est vrai que la vie chrétienne n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille, comme on pourrait dire, mais voilà, il est bon. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager justement. Hein, vous savez, c'est comme dans une voiture, dans un voyage. Alors, si vous avez l'habitude, vous avez un GPS, vous mettez l'adresse, et puis qui va vous guider vers le chemin. Alors, mais souvent, ça peut arriver, le GPS semble perdu. Le GPS semble vous diriger vers un chemin, alors que vous pensez que vous pensiez aller à droite, il va vous indiquer à gauche, par exemple. Voilà. Et en fait, il y a un bouton dans ce GPS. C'est un bouton, ça s'appelle recentrer. Et c'est un bouton très efficace qui vous permet vraiment de vous recentrer là où vous êtes, sur là où vous êtes actuellement, et puis de vous remontrer le chemin. Et bien ce matin, voilà, nous allons nous recentrer sur l'espérance que l'on a en tant que chrétien, nous recentrer sur notre Seigneur. Amen. Donc voilà, donc pour cette prédication, donc je l'ai divisée voilà, en trois parties. Cette espérance chrétienne à travers la Bible en comparaison de l'espérance du monde, l'espérance du chrétien dans une deuxième partie centrée sur Jésus-Christ, et enfin, comment vivre cette espérance. Quelle est justement l'espérance du chrétien? Donc, à travers la Bible, on voit que l'espérance est au cœur du message biblique. Hein, nous pouvons prendre un exemple dans Romains 4, 18. Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, il parle d'Abraham et il dit Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, comment voilà, il était convenu qu'il n'y ait pas d'héritier, mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait mis en lui cette espérance. Alors nous connaissons le début, le milieu, la fin de l'histoire, et on peut se dire, c'est normal, Abraham, c'était un grand croyant, et c'est normal qu'il avait cette espérance. Mais cette espérance, il devait la faire vivre, il devait l'avoir en lui, et cette espérance parce qu'il avait vraiment les yeux fixés sur son Créateur. Hein, ce n'était pas sur les circonstances, mais c'était véritablement sur la parole de Dieu. Il était vraiment fixé sur la parole et les promesses de Dieu. Et Dieu avait à cœur, justement, de faire vivre en Abraham cette espérance, espérant contre toute espérance. Et nous connaissons après la suite de l'histoire. Mais voilà, est-ce que nous pouvons dire, espérant contre toute espérance, Seigneur, malgré les circonstances, malgré les zones d'ombre, malgré les difficultés de la vie, je garde et j'ai cette espérance en toi, Seigneur. C'est un message qu'on doit vraiment méditer. Cette espérance et cette espérance après est venue, cette postérité est venue par Sarah, donc, et c'est devenu les enfants de la promesse. Donc dans Romains 4, 17, il est dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et c'est ça aussi, cette espérance, c'est de savoir dans notre cœur, d'avoir cette foi, cette espérance en la parole du Seigneur, que même si nous ne voyons pas avec nos yeux, nous n'entendons pas encore, nous savons que les choses vont se réaliser parce que nous avons cette espérance, nous avons vraiment cette foi, cette espérance. Hein, c'est souvent, alors c'est pas forcément les mêmes choses, mais c'est lié, la foi et l'espérance. Et donc c'est vraiment cette espérance que le message, et Abraham avait cette espérance. Également les prophètes d'Israël, alors il serait beaucoup trop long de les prendre un après l'autre. J'ai pris par exemple dans Ésaïe au verset 25, au chapitre 25 au verset 8 à 9, hein, nous connaissons tous, les prophètes étaient là comme des vigiles, ils étaient là parce que le peuple, souvent, face aux difficultés, le peuple juif avait tendance à se tourner contre Dieu, à tourner le dos à Dieu. Et les prophètes étaient là pour rappeler au peuple l'espérance qu'il y avait. Et il est dit dans Ésaïe, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. En qui nous avons confiance, en qui nous avons mis notre espérance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Voilà, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. Et l'espérance est liée là au salut. Et nous savons, nous en tant que chrétiens, nous avons cette connaissance que cette espérance, ce salut est en Jésus-Christ. Et nous voyons à travers l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament, nous voyons que cette espérance, malgré tout, a permis au peuple de tenir bon et de retourner en terre promise, malgré toutes les difficultés, malgré les exils, malgré tous les ennemis, et de retourner en terre promise pour y fonder un État, un nouvel État, qui est l'État moderne d'Israël. D'ailleurs, l'hymne national israélien se nomme, alors en hébreu c'est la Hatikva, qui signifie quoi ? L'espérance. Donc cette espérance, et donc j'ai pris un des strophes de cet hymne qui dit « Notre espoir n'est pas encore perdu, cet espoir vieux de 2000 ans, ce qui remonte au temps de l'exil, être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. » Amen. Donc on voit que le peuple juif avait cette espérance en lui. Et c'est cette espérance, cette foi, en l'Éternel qu'il a pu vraiment, qu'un reste ait pu retourner en terre promise. Et Jérémie également nous dit, dans Jérémie 14, 22, « Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir ou est-ce le ciel qui donne la pluie ? N'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes choses. » Et comme, voilà, comme nous sommes le peuple de Dieu également, et voilà, et comme, comme Jérémie, nous devons dire, face à tout ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu, qui fait toutes choses, qui est souverain en toutes choses, même si on voit des catastrophes partout, nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Voilà, c'est vraiment cette conviction, plus qu'une conviction, c'est cette espérance que nous devons avoir, que nous devons renouveler en nous ce matin. Alors justement, quelle est l'espérance du monde? Parce que là, on a vu l'espérance chrétienne, l'espérance du chrétien. Quelle est l'espérance du monde? Eh bien, déjà, l'homme a été fait à l'image de Dieu. L'être humain, contrairement à l'animal, possède une âme. Et c'est intrinsèque à lui d'avoir, de se projeter dans le futur, d'avoir des projets, d'avoir une espérance. L'être humain ne peut pas vivre sans espérance. Et nous lisons, donc c'est toujours Paul, dans 1 Thessaloniciens 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette espérance, les non-croyants, qui n'ont point d'espérance. » En effet, pour le monde qui a besoin d'une espérance, mais qui a enlevé Dieu de cette espérance, qui a enlevé Dieu du but de l'espérance. Donc si j'ai une espérance, mais je n'ai plus Dieu, il faut que je le remplace par quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Alors, on peut parler d'humanisme. Vous savez, vous entendez peut-être dans le monde, l'humanisme, c'est avoir l'espoir, c'est une idéologie qui est centrée sur l'homme. Où l'homme, c'est l'homme qui va, par ses propres mérites et ses propres moyens, faire en sorte que le monde soit meilleur. Bon, on peut voir où est cette espérance. Il y a eu une espérance également qui a eu beaucoup de succès, le communisme. Le communisme, paradoxalement, qui était une idéologie athée, donc violemment antichrétienne, anti-Dieu, mais malgré tout, il y avait une espérance. On peut appeler ça même les fidèles qui croyaient en cette doctrine, le communisme, parlaient des lendemains qui chantent, vraiment de cette espérance. Ils espéraient que, voilà, que la fin dans le monde, que les inégalités allaient disparaître parce qu'il y avait un régime, voilà, le régime, le communisme. Bon, on a vu jusqu'aux excès. Où est passée cette espérance? Parce que cette espérance était humaine. Elle prenait un homme nouveau. Elle prenait un homme nouveau comme toutes les idéologies humaines, comme le nazisme, le fascisme et toute idéologie qui veut transformer l'homme, mais transformer l'homme, faire un homme, finalement un homme-dieu, où l'homme devient Dieu, mais finalement, on voit tous ces résultats ne sont que des échecs. Et on voit que les problèmes sont de plus en plus, sans solution. Alors, ben, qu'est-ce qui reste au monde? Eh bien, il reste soit la dépression, soit l'égoïsme, l'individualisme. Également, bon, certains parlent de la science comme l'espérance du monde. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Mais on voit que ce n'est pas fondé sur la vérité. Alors certains, il y a des problèmes à l'échelle mondiale, il faut des solutions mondiales. On parle d'un gouvernement mondial pour mettre fin aux différentes crises et adopter de nouvelles solutions. On parle d'un rassemblement des religions ou une religion mondiale pour qu'il n'y ait plus de guerre, que les hommes ne s'entretuent pas. Certains parlent d'extraterrestres, certains veulent aller sur Mars. Enfin, vous voyez, le monde est tellement perdu, il ne sait plus où est son espérance. Et nous, quelle est l'espérance de l'Église? Quelle est cette espérance-là? Dans Éphésiens 2, 12, il est dit « Souvenez-vous que vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » L'Église veut voir Christ triompher. Mais qu'est-ce que nous attendons en tant qu'Église? Est-ce qu'on attend des miracles de plus en plus merveilleux, comme au temps de la Pentecôte? Alors, est-ce que nos églises qui déborderont de fidèles, des autorités qui vont se convertir à Christ, un grand réveil mondial qui va convertir des peuples et des nations, une église triomphante dans le monde, peut-être même la reconstruction d'un temple à Jérusalem qui changera le cours de l'histoire et permettrait aux Juifs du monde entier de revenir, ou l'enlèvement de l'Église. Alors certaines choses ne sont pas mauvaises. On veut voir la présence de Dieu, on veut voir vraiment des conversions, que c'est quelque chose de tout à fait positif. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce que je dois vraiment fixer de mon regard en tant que chrétien? Donc, cette espérance, en deuxième partie, l'espérance du chrétien est bien sûr centrée sur Jésus-Christ. Il est celui que nous attendons. Voilà, nous n'attendons pas la paix dans le monde, en tout cas pas dans ce monde-là. Bon, l'amélioration de notre qualité de vie, c'est toujours agréable. L'évangélisation du monde, oui, nous voulons faire des témoins, des disciples. La croissance exponentielle, l'enlèvement, la glorification de l'Église, tout ça, non. Notre GPS, notre espérance, c'est le Sauveur lui-même. Amen. Paul dit bien, lorsqu'il présente, alors c'est dans 1 Timothée 1, quand il écrit « Salutations, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. » Donc, premièrement, nous ne cherchons pas, comme j'ai dit, des dons, pouvoir faire des miracles, mais nous avons vraiment qu'est-ce qui brûle dans mon cœur? Quel est vraiment l'objet de mon amour? C'est Jésus lui-même. Nous voulons avoir une relation intime avec lui, faite de confiance, de fidélité, d'honnêteté, mais aussi de ferveur. Nous avons soif de mieux le connaître, de connaître sa vie, sa présence, sa personne, par sa parole, par les prières, par la communion fraternelle. Oui, la venue de Jésus est la réponse à toutes nos aspirations, la solution à tous nos problèmes. Dans Colossiens 3, au verset 3 à 4, Paul nous dit, alors il écrit à Colossiens, mais il écrit à nous également, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Amen. Voilà, notre vie actuellement est cachée avec Christ en Dieu. Et quel est l'objet de mon désir? C'est d'être réuni avec mon Seigneur pour l'éternité. Amen. À son apparition, nous serons transformés, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Il est également la seule espérance de l'Église. Dans Éphésiens 4, au verset 4, Paul écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Oui, nous n'avons qu'une seule espérance, frères et sœurs. Si nous attendons la personne du Fils de Dieu, il ne peut avoir d'autre espérance pour nous. Et là où est ton espérance, là est ton cœur. Le Seigneur, nous le savons, est un Dieu saint. Il est également un Dieu jaloux et demande un amour exclusif à son peuple. Nous ne pouvons pas partager cette espérance avec, j'allais dire, des doctrines humaines. Avec toute chose, nous devons vraiment avoir une seule espérance, et cette espérance, c'est le Seigneur lui-même. Nous savons et nous connaissons bien que notre Seigneur s'est manifesté, il s'est manifesté une première fois. Donc, lorsqu'il est paru, il est venu sur la terre, comme dit dans la parole, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a pu comparaître dans le ciel. Et comme dit donc la parole, c'est dans Hébreux 9, 24, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et enfin, la troisième étape, il ne va pas rester tout le temps dans le ciel, il va venir. Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que l'on l'attend, frères et sœurs, pour notre salut? Est-ce que nous avons cette foi et cette espérance que le Seigneur, que l'avenir du chrétien n'est pas sur terre, mais avec le Seigneur pour l'éternité? Lorsque nous prenons la Sainte Cène, c'est vrai que nous nous rappelons ce que le Seigneur a fait, son sacrifice. Donc nous nous tournons vers, généralement la semaine passée, pour se dire et s'examiner soi-même. Après, nous savons que, justement, le Seigneur est dans le ciel et donc il comparait même pour nous devant la face de Dieu pour nous rendre justes, il nous a rendus justes. Mais également, lorsque je prends la Sainte Cène, je dois avoir cette espérance en moi qui est que le Seigneur reviendra. Il reviendra pour prendre ceux qui l'attendent pour son salut, pour leur salut. Et il reviendra également, comme il dit dans sa parole, donc dans Luc 22, 18, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Il y aura un temps, les noces de l'agneau, lorsque les noces de l'agneau seront là, nous serons tous et toutes là, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et c'est ça notre, vraiment notre, ce qui doit brûler notre cœur de chrétien ce matin. Et ce qui est vrai pour la Sainte Cène doit être vrai pour tout ce que j'entreprends. Oui, je fais des choses, je suis dans... Voilà, parce que le Seigneur me demande de faire des choses, dans quelque activité que j'entreprenne, le Seigneur, je dois me dire, je le fais également par espérance. Je le fais pour aujourd'hui, mais je le fais également parce que j'annonce Christ. J'annonce Christ qui va revenir. Et c'est ça l'espérance. Alors justement, où est ma relation avec Jésus-Christ aujourd'hui? Vous savez, ce qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est qu'on est interpellé, mais interpellé avec le Seigneur n'est jamais mauvais. C'est jamais pour être condamné, c'est jamais pour... voilà, c'est au contraire pour être libéré. Le Seigneur me demande, te demande, où en es-tu ce matin avec moi? Si je devais revenir aujourd'hui, le Seigneur interpelle ses enfants car il nous aime. Jamais de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais laissons-nous interpeller par l'Esprit de Dieu avec quelques questions simples. Ai-je fait la paix avec Dieu? En d'autres termes, est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Voilà, me suis-je fait baptiser dans l'Église? Alors le baptême ne sauve pas, mais c'est un commandement du Seigneur. Est-ce que j'ai une relation intime avec le Seigneur, avec une bonne conscience, ou est-ce qu'il y a quelque chose, des lourdeurs dans mon cœur? Est-ce que je connais l'appel de Dieu pour ma vie? Quel est mon talent, mon don, mon ministère? Si je ne le connais pas, si c'est encore flou, eh bien je le demande simplement au Seigneur. Qu'en est-il de ma relation avec les frères et sœurs? Est-ce que j'ai des difficultés avec certaines personnes, avec le pasteur, avec des anciens? Est-ce que le pardon, oui, le pardon, on en revient toujours à là, car c'est primordial. Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai pardonné simplement avec la bouche, mais dans le cœur, j'ai encore cette blessure? C'est que tu n'as pas pardonné. Alors demande simplement au Seigneur. Et est-ce que j'ai demandé pardon? Parce que souvent on dit, oui, je pardonne aux frères et à la sœur, mais... Quand on a été blessé, souvent, par la parole, par la pensée, on peut avoir des pensées blessantes pour le frère et la sœur qui nous a offensés. On ne réalise pas vraiment, mais vous savez, toute parole a un effet. Et on peut, et alors, en général, c'est rare d'entendre des personnes dire « Oui, j'ai blessé un tel, j'ai blessé une telle et je demande pardon. » Mais voilà, est-ce que j'ai pardonné dans mon cœur? Est-ce que j'ai demandé pardon? Et ça, c'est toujours... par le Seigneur. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est vraiment ce maître. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que je l'attends avec zèle, enfin? Est-ce que j'attends avec zèle le retour de mon Seigneur? Donc, c'est quelques questions qui nous interpellent et qui doivent, ce matin, me dire, où est mon espérance? Parce que l'espérance est quelque chose de joyeux. L'espérance doit être quelque chose où j'ai envie de bondir, de sauter. L'espérance, c'est vraiment quelque chose... de merveilleux, mais voilà, le Seigneur veut que son Église, de nouveau, retrouve cette espérance. Enfin, comment vivre cette espérance? Voilà, cette espérance, nous avons, frères et sœurs, l'espérance, ce n'est pas, comme dit dans Romains 8, au verset 23-25, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Vous voyez, nous n'attendons pas les catastrophes qui sont prévues dans la Bible, nous n'attendons pas le ciel qui nous tombe dessus, mais nous attendons Christ. Voilà notre espérance. Nous avons l'assurance de notre salut. Si nous avons cette assurance-là, il n'y a plus ni condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ni rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Voilà, même la création participe, vous savez, à cette espérance. Nous lisons dans Romains 8 au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, il y a même la création soupire, nous voyons un peu avec les pollutions, avec tout ce qui se passe sur la terre, nous voyons cette... Alors, si même déjà la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, combien, d'autant plus, nous, croyants, nous, enfants de Dieu, nous devons... avoir cette espérance, mais ce n'est pas qu'une espérance intellectuelle, c'est vraiment cette espérance du chrétien. Dans mon cœur, je dois l'avoir et je dois avoir cette paix dans mon cœur. Enfin, est-ce que je vis cette espérance aujourd'hui? Pierre nous écrit dans sa lettre, dans 1 Pierre au verset 3 à 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Voilà, donc c'est... Alors nous qui cherchons justement souvent à vouloir parler de Christ à nos voisins, par exemple à nos voisins musulmans, aux collègues de travail qui se dit athée ou qui ne croient pas en Dieu, nous ne savons pas trop comment faire, on n'ose pas aller y aller franco, on n'ose pas, mais on a envie de partager cette partager Christ. Eh bien, Pierre nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, vraiment, on peut partager cette espérance, on doit partager cette espérance aux collègues de travail. Hein, c'était pas, on n'est pas là pour imposer quelque chose, on n'est pas là pour convertir. C'est l'Esprit de Dieu qui convertit les cœurs. Mais on est là pour témoigner et pour donner raison à l'espérance qui est en nous. Voilà, ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il a dans le cœur une espérance vivante et est tourné vers son Seigneur. Amen. Voilà, donc, en conclusion, à travers la parole de Dieu, nous voyons que l'espérance des croyants pour le Seigneur a été le fil conducteur lorsque les difficultés étaient présentes. Mon espérance de chrétien est centrée sur Jésus-Christ et non sur le monde ni sur l'Église. Je dois avoir les yeux fixés sur lui et mon cœur connecté au Seigneur. Renouvelle, Seigneur, ma relation avec toi. Que tout ce que j'entreprenne pour le Seigneur se fasse avec cette espérance vivante de son retour et de vivre toujours avec notre Seigneur. Et enfin, je partage avec vous ces dernières paroles, le dernier message de la Bible dans Apocalypse 22, au verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entende dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui, et au tout dernier verset, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Voilà, ayons, frères et sœurs, cette espérance ce matin, renouvelons cette espérance avec notre Seigneur et vraiment soyons réconfortés car le Seigneur arrive, le Seigneur vient et que son peuple se prépare avec joie. Amen, soyez bénis.
Merci Adnan pour ce rappel de notre espérance. Nous avons une espérance. Peut-être qu'on peut prier simplement aussi en réponse à ce message, se mettre devant le Seigneur et peut-être se laisser interpeller aussi en disant est-ce que cette espérance, je la vis au quotidien ? Est-ce que cette espérance, elle est visible de telle sorte que ceux qui m'entourent me demandent de rendre compte de mon espérance ? Pourquoi tu as cette espérance ?